Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le Maroc est qualifié pour les huitièmes de finale du mondial de football. Les Lions de l'Atlas ont battu le Canada 2-1. Nous écouterons le journaliste et chroniqueur marocain Abdellah Tourabi. Malgré le premier succès de son histoire contre l'équipe de France championne du monde en titre, la Tunisie est éliminée de la Coupe du monde de football. Nous y reviendrons avec Rayed Chaibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Le Raï, chant populaire d'Algérie, entre au patrimoine immatériel de l'humanité. L'UNESCO l'a annoncé ce jeudi à Rabat. La vacance présidentielle au Liban, pas de nouveau président élu à l'issue de la 8e séance électorale ce jeudi matin. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, détenu sans accusation formelle, doit être expulsé dimanche prochain en France. Il s'est ouvert ce mercredi le procès des attentats de 2016 à Bruxelles, attentat qui avait fait 32 morts et des centaines de blessés. Sur l'impact d'un tel procès sur les rescapés, entretien avec Guillaume Denoy de Saint-Marc, fondateur de l'Association française des victimes du terrorisme, administrateur de V Europe, partie civile dans ce procès. Ce sera ce vendredi au Cabaret Sauvage. Le groupe La Baisse se produira sur scène, un groupe algéro-québécois qui a de nombreuses influences musicales. Nous écouterons son leader, Nedjim Bouizoul. Le Maroc s'est donc qualifié pour les huitièmes de finale du mondial de football. Une victoire de 2-1 face au Canada. Les Lions de l'Atlas terminent premier de la poule. Ils affronteront l'Allemagne en huitième. Ce sera mardi prochain à 16h. La Belgique est éliminée après un nul 0-0 face à la Croatie. La Croatie, elle aussi qualifiée pour les huitièmes. Sur les atouts de l'équipe marocaine, le journaliste et chroniqueur marocain Abdellah Tourabi.
Il y a plein d'atouts actuellement pour l'équipe marocaine. C'est une équipe qui est assez spéciale. Je pense que c'est la meilleure équipe dont dispose au Maroc depuis des années, enfin probablement depuis 86. Tout d'abord, il y a une ossature qui est composée de joueurs qui jouent au plus haut niveau. On rappelle quelques joueurs, Hakimi qui joue au PSG, Mazraoui qui joue au Bayern, Amrabat qui joue à Fiorentina, Bono qui a été élu meilleur gardien au championnat espagnol l'année dernière. Donc il y a une équipe qui est assez forte et assez solide. Deuxième chose, il y a l'effet du nouveau coach Walid Al-Ghalaghi, qui est un coach qui est un peu spécial, c'est-à-dire il a cette grande capacité d'abord à créer un groupe, à souder les individus qui composent le groupe, et on l'a vu avec le Wydad de Casablanca qui a remporté la Champions League avec lui d'ailleurs cette année, il y a de ça, mais en même temps il y a un esprit qui est commun, et on l'a vu pendant les deux matchs que le Maroc avait menés contre la Croatie et contre la Belgique. Il y a un vrai esprit de corps, il y a un vrai esprit d'équipe, et on a des individus qui sont soudés. On est en train de dépasser tout ce que le Maroc a connu enfin, il y a quelques années, c'est-à-dire les divergences, les conflits d'individus, les égos, etc. On a vu des joueurs claquer la porte de l'équipe nationale à un moment, comme c'était le cas de Ziyech, comme c'était le cas de Hamdallah.
Le journaliste et chroniqueur marocain Abdellah Tourabi. La victoire de la Tunisie face à l'équipe de France lors de la troisième journée des poules, victoire 1-0 malgré cette performance. Les Aigles de Carthage n'accèdent pas au huitième de finale et les Bleus terminent tout de même en tête du groupe. Retour sur ce match et sur l'importance du sport dans la coopération entre la France et la Tunisie avec Rayed Chaibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie.
Je souhaitais que la Tunisie quand même se qualifie pour qu'on ait la France et la Tunisie qualifiées. Ça aurait été un beau symbole, donc effectivement, une victoire de la Tunisie ne m'a pas déplu. Malheureusement, c'est une victoire un peu au goût amer parce que la Tunisie n'avait pas notre destin entre nos mains et qu'on était dépendant de l'autre match entre le Danemark et l'Australie. Donc, c'est une victoire au goût amer.
Et qu'est-ce qui vous a frappé dans ce match ?
L'engagement des Tunisiens, l'énergie déployée. J'ai regretté qu'il n'y ait pas cette même énergie, cette même soif de victoire dans le précédent match contre l'Australie, qui nous aurait, je pense, facilité grandement la situation. Mais je m'attendais à un engagement, mais pas un engagement aussi, un engagement aussi frontal. Hein. La Tunisie est carrément rentrée dans les joueurs français et ils ont montré qu'ils avaient beaucoup plus faim. La France, je pense, a abordé ce match avec une certaine décontraction, une certaine facilité, étant déjà qualifiée. Mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient autant bousculés. C'est pour ça que je parle de victoire au goût amer. Parce que je regrette que la Tunisie n'ait pas eu cette même agressivité dans le bon sens du terme lors du précédent match.
Rayed Chaibi, vous présidez une association qui promeut la coopération entre la France et la Tunisie. Quelle est l'importance du football et du sport plus globalement dans cette coopération ?
Globalement, en Tunisie, le football est une institution. Je pense que c'est l'une des rares choses où les Tunisiens arrivent à se retrouver et à se fédérer. C'est une véritable institution, il y a une ferveur populaire. Quand on dit que le football est un sport populaire, et bien en Tunis, ça prend tout son sens. Et c'est vrai que dans cette ferveur-là, on a vocation, nous également, à accompagner cette ferveur en étant aux côtés des clubs. Alors, on n'a pas encore monté d'action de ce type, mais on est tout à fait disposé, en tout cas, à apporter notre soutien, notre appui dans le développement des clubs sportifs, notamment par l'envoi, le don d'équipements, de crampons, de maillots notamment, et puis mettre le focus également sur les équipements sportifs, puisque malheureusement la Tunisie a des équipements sportifs parfois un peu désuètes, et donc il y a nécessité d'accompagner la Tunisie également dans ce volet-là. Et le paradoxe, c'est que la Tunisie a des graines de champion de venir, mais malheureusement ne dispose pas forcément des infrastructures nécessaires pour accompagner justement l'éclosion de ces jeunes pousses et de ces pépites.
Rayed Achaibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Deux Palestiniens ont été tués dans un raid israélien en Cisjordanie occupée. C'est arrivé à Jenin. Les personnes tuées sont un commandant du djihad islamique et l'un de ses proches associés. L'avocat franco-palestinien Salah Amouri, détenu sans accusation formelle, doit être expulsé dimanche prochain en France. Ses avocats ont pour le moment été prévenus par voie orale de cette décision. Salah Amouri est détenu dans une prison israélienne depuis le mois de mars dernier. Il ne dispose pas de la nationalité israélienne, mais d'un simple permis de résidence révoqué l'an dernier par les autorités israéliennes. La diplomatie française avait demandé en vain à Israël à ce qu'il soit libéré et puisse vivre à Jérusalem. Toujours pas de président au Liban. Les députés libanais se sont réunis ce jeudi matin au Parlement à Beyrouth pour une 8e séance consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République. Le poste est vacant depuis la fin du mandat de Michel Aoun le 31 octobre dernier. Le prochain rendez-vous électoral pour les députés est fixé à jeudi prochain. La coordinatrice spéciale de l'ONU indiquait mardi que le Conseil de sécurité insistait sur l'urgence d'élire un nouveau chef de l'État. Le pape François se rendra prochainement en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Un déplacement du 31 janvier au 5 février prochain. Le voyage initialement prévu l'été dernier avait été reporté pour des raisons de santé. Le rail, chant populaire d'Algérie, entre au patrimoine immatériel de l'humanité. L'UNESCO l'a annoncé ce jeudi à Rabat. C'est une importante consécration pour ce genre musical, rendu célèbre à travers le monde dans les années 90. Popularité grâce à des artistes algériens comme Cheb Khaled, Cheb Hasni ou encore Cheb Mami. L'Algérie compte désormais, avec le classement du rail, 9 éléments de son patrimoine inscrits à l'UNESCO. L'ouverture mercredi du procès des attentats de 2016 à Bruxelles. 10 hommes sont jugés dans ce procès hors norme. Ils sont accusés d'avoir participé à ces attaques terroristes le 22 mars 2016. Attentats qui avaient fait 32 morts et des centaines de blessés. Deux hommes s'étaient fait exploser dans le hall des départs de l'aéroport Zaventem, un troisième dans une station de métro. Entretien avec Guillaume Denoy de Saint-Marc, fondateur de l'Association française des victimes du terrorisme, administrateur de VE Europe, et il est parti civil dans ce procès. Guillaume Denoy de Saint-Marc.
Ce procès est un procès qui va être très long, pour lequel nous avons tout fait pour préparer justement les victimes. Procès qui va ressembler à celui des attentats de Paris, pour lequel on a eu aussi un procès fleuve avec de nombreuses parties civiles. On est un peu dans le même cas de figure et en plus avec malheureusement un protagoniste dans les deux cas qui est identique. Donc c'est un procès d'assises, un procès dans lequel il y a des jurés, ce qui est une particularité en Belgique par rapport à la France, pour lequel il n'y a pas de jurés pour un procès terroriste. Là, on a des jurés, mais c'est un procès qui va forcément être très compliqué pour les victimes, d'autant plus que les victimes de cet attentat ont été très mal accompagnées. Elles ont été accompagnées principalement donc par les associations, mais elles n'ont pas de fonds de garantie, comme on peut l'avoir en France, et comme on aimerait qu'il y en ait partout. Et elles doivent se battre avec les assurances, et il n'y a pas de structure nationale d'accompagnement organisée par l'État. Et donc, tout le travail d'accompagnement est fait par les associations, avec souvent des moyens assez maigres, même s'ils ont pu être augmentés ces derniers temps. C'est vraiment un travail de long terme, et on voit à quel point d'ailleurs les victimes souffrent, puisqu'il y a eu énormément de suicides de la part des victimes de ces attentats-là, notamment une qui a réussi, qui a voulu se faire euthanasier et qui a été euthanasiée. Donc on voit bien que c'est l'accompagnement par l'État est complètement déficient.
Vous évoquez cette souffrance. Quel type de souffrance émane de ces personnes, de ces victimes ?
La principale souffrance est une souffrance psychologique qui est liée au choc post-traumatique et à l'absence de réponse de la cible véritable qui est l'État. Tant que l'État ne réagit pas pour les victimes du terrorisme, en les accompagnant, en leur faisant obtenir de la reconnaissance, en étant dans la bienveillance et l'accompagnement, ces victimes resteront malheureusement traumatisées. Parce que ce n'est pas de la part des auteurs qu'elles vont obtenir quelque chose. Elles peuvent attendre quelque chose que de la part de la cible véritable, qui est l'État et la société. Dans les États où il n'y a pas d'accompagnement pour les victimes du terrorisme, on s'aperçoit que les souffrances psychologiques perdurent et ne guérissent pas, ou guérissent très mal.
Et pourquoi un tel procès est important pour la reconstruction des victimes, notamment psychologiques ?
Tout l'objet de l'accompagnement des victimes, c'est d'arriver d'abord à leur donner un statut, une reconnaissance, enfin le fait qu'elles acceptent qu'elles sont victimes, je pense notamment aux victimes psychologiques, quand on est victime physique, ça se voit, quand on est victime psychologique, ça ne se voit pas. Et donc il faut les accompagner, qu'elles acceptent d'être prises en charge et d'être accompagnées, et ensuite les aider à sortir d'une position victimaire. Et cette sortie de position victimaire passe par sortir de la voie, qu'on dirait naturelle, qui est celle de la douleur, de la haine, de la vengeance, de la revanche, mais pour aller vers des notions de justice, d'équilibre. Et donc la justice est indispensable pour ces victimes. C'est un élément fondamental de leur reconstruction. Elle délègue à la société le fait de rendre justice, c'est-à-dire qu'elle recrée le lien social et le lien avec la société qu'elles ont perdu, puisqu'elles ont été l'outil pour frapper cette société, et c'est du fait de cette frappe qu'elles sont devenues victimes du terrorisme.
Parallèlement, un tel procès ne risque-t-il pas de faire remonter des traumatismes ?
Alors ce type de procès, bien sûr, est des moments où on va revivre la tragédie, revivre ce qu'on a vécu, c'est des moments pénibles, mais ce sont des moments aussi où on va revivre finalement tous les cauchemars qu'on n'arrête pas d'avoir tout le temps. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir parler de sa souffrance devant un public qui est attentif à ce qu'on va dire. Et ça participe de la reconstruction. Et donc le fait d'avoir un spectateur, un acteur muet, on va dire, du procès pendant toute la partie des autres prises de parole, des témoins, etc., voire des accusés, il y a le moment où les parties civiles vont pouvoir s'exprimer, qui est un moment fondamental, où elles vont pouvoir exprimer leurs particularités et pour faire comprendre ce que c'est que le terrorisme. Et ce moment-là est aussi un moment où elles vont très souvent refaire la paix avec elles-mêmes parce qu'elles sont enfin entendues, et entendues par une institution qui est la justice.
Guillaume Denoy de Saint-Mar, fondateur de l'Association française des victimes de terrorisme, administrateur de VE Europe et partie civile dans ce procès à Bruxelles. Les médecins généralistes ont entamé ce jeudi une grève de 2 jours, mouvement que la France n'avait pas connu depuis 20 ans. Le syndicat Les Généralistes CSMF affirme que les 3/4 des cabinets au moins garderont leurs portes fermées. La principale revendication est liée au tarif des consultations. Le groupe Labès se produit ce vendredi au Cabaret Sauvage. Le leader du groupe, Nedjim Bouizoul, présentera son dernier album, influencé par un long séjour en Colombie. Mais le groupe algéro-québécois a de nombreuses influences musicales. Nedjim Bouizoul.
Ben, moi, j'ai grandi avec mon père qui était guitariste-bassiste. Et puis donc avec lui, j'avais tout le répertoire plutôt folk, songs, tout ce qui était Bob Dylan, John Baez, Pink Floyd, côté rock et tout. Et chansons françaises aussi, donc tout ce qui est Georges Moustaki, Brassens, Graham Wright et tout ça, quoi. Mais après, petit à petit, moi, j'ai eu ma phase rap, phase un peu hard rock. Après ça, j'ai eu ma phase shabby aussi, musique traditionnelle populaire algéroise. Et après, j'ai découvert le flamenco. Et quand j'ai découvert le flamenco, j'ai baigné dedans pendant des années et des années. Puis, quand on est arrivé au Québec, là, il y avait vraiment des gens de partout, quoi. C'était comme un melting pot, comme on dit. Et du coup, j'ai découvert plein de musiques différentes. Tout ce qui est des îles, Haïti, Cuba, Brésil, tout ça, quoi. Et Donc c'est un peu ça, musique du Cap-Vert avec César Evora.
Alors vous avez été musicien de rue avant de vous produire sur des scènes prestigieuses comme le Cabaret Sauvage le 2 décembre. Qu'est-ce que ça apporte le fait d'avoir joué dans la rue à la composition musicale, au rapport qu'on a à la musique ?
Tant qu'à moi, c'est la meilleure école parce que on développe aussi un côté théâtral. On apprend plein de choses en fait. Il n'y a pas de barrière. Moi, je sais que quand je suis arrivé d'Algérie et que j'ai atterri dans les métros de Montréal, quoi, bah en fait, on voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et puis, il y a un contact direct avec, avec les gens aussi, de toutes sortes. Et puis, et ça aide vachement à développer une carrière, à composer. En tout cas, moi, je prône cette école-là, quoi.
Alors, comment est né votre groupe, L'Abbesse ? Quand on choisit un nom pareil, ça donne une certaine couleur aussi à la musique.
D'accord. Donc, le groupe est né à Montréal. Et c'est vraiment une aventure musicale, quoi, avec des musiciens montréalais. Et puis, le nom, en fait, je ne savais pas trop au début comment nommer le groupe. Et la mère de mon enfant chantait une chanson qui s'appelait « L'Abbesse », c'est une chanson marocaine. Et elle m'a dit, pour L'Abbesse, je trouve qu'il y a L'Abbesse, ça sonne super bien. Et du coup, j'ai enlevé le YA et j'ai mis L'Abbesse, quoi. Et par rapport à mon parcours, je trouvais ça intéressant. C'est un peu extérioriser ce qu'on a vécu en Algérie, tout ça, et dire tout va bien, c'est un nouveau départ. Allez, on en fait quelque chose de positif, quoi.
Le leader du groupe L'Abbesse, Nedjim Bouizoul, il répondait à Loïc Barrière. La séance publique annuelle de l'Académie française, ce jeudi, elle distingue les lauréats des prix littéraires de l'année 2022. Parmi ces lauréats figure L'Orient le Jour, le journal libanais francophone qui a reçu la médaille de la francophonie. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Excellente suite de programme.